L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Comme vous le savez, l'Hebdo Patrimoine, c'est tous les vendredis sur Radio Patrimoine. On parle économie, finance, parfois immobilier, bref, tout ce qui fait vos placements pour vous, les conseillers en gestion de patrimoine, les professionnels de la finance et par extension, tous ceux qui s'intéressent à l'épargne. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à un sujet un petit peu plus technique, c'est les obligations convertibles. Alors, qu'est-ce que c'est que les obligations convertibles? Est-ce que vous connaissez ce produit? Comment ça fonctionne? Comment intégrer cet instrument dans son portefeuille? Est-ce que c'est le moment d'investir alors que des tensions sur les taux ressurgissent, notamment aux États-Unis? On va décrypter tout ça avec nos spécialistes. On est en compagnie de Chris De Blander, gérant de Dynasty AM. Bonjour Chris.
Bonjour Fabrice.
En compagnie également de Laurent Pluchard. Bonjour Laurent.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur général de Dynasty AM. Donc l'équipe est là presque au complet. Et puis on a également Philippe Poinçon. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Habitué des plateaux de Radio Patrimoine, déjà quelques présences. Vous êtes consultant en gestion de patrimoine, ex-conseiller en gestion de patrimoine. Et vous connaissez bien effectivement tous ces produits. Voilà, l'Hebdo Patrimoine spécial obligations convertibles, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Et je vais commencer avec Laurent Pluchard, donc directeur général de Dynasty AM. On va faire un petit tour d'horizon déjà pour mieux vous connaître. Dynasty AM, c'est quoi en quelques mots?
Oui, Dynasty AM, nous sommes une société de gestion spécialisée sur les obligations. Nous gérons 10 fonds pour un total d'encours de 1,2 milliard d'euros. Mais nous avons une spécialisation justement sur les obligations convertibles, puisque environ 50% de nos encours sont investis dans des obligations convertibles au travers de deux fonds, un fonds Monde, Dynasty Global Convertible, et un fonds Europe. D'accord. Donc nous avons des gérants expérimentés qui ont entre 25 et 35 ans d'expérience dans la gestion. Et ces gérants nous ont permis d'avoir de nombreux prix, puisqu'on a reçu une dizaine de Lipper Fund Awards depuis les 12 dernières années comme meilleur fonds d'obligations convertibles Monde et Europe. Et cette année, on a été élu meilleur fonds d'obligations convertibles Europe, à la fois sur 3 ans et sur 5 ans.
Alors, à vos côtés, votre gérant star, Chris De Blander. Chris, vous connaissez bien ce produit, donc vous pratiquez depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez assez simplement, on va penser peut-être à ceux qui ne connaissent pas bien ce produit, nous décrire comment fonctionne une obligation convertible? En préparant l'émission, vous me disiez, c'est un peu presque le meilleur des deux mondes, parce qu'on a du côté une obligation, donc un coupon, mais aussi la possibilité de convertir en action. Expliquez-nous en quelques mots.
Voilà, c'est tout à fait ça. Vous l'avez très bien capté et très bien expliqué. Une obligation convertible, c'est une obligation qui a les caractéristiques d'une obligation classique. Donc elle est remboursable à l'échéance au pair et vous touchez un coupon entre-temps. Mais à votre choix, et seulement à votre choix, vous avez l'optionnalité de la convertir en action de la société émettrice. Ce qui en fait un peu le meilleur de deux mondes. Et quelque part, vous avez un petit droit à vous tromper sur l'investissement, puisque si les marchés corrigent, vous serez remboursé à la fin. Et si les marchés montent, vous pourrez convertir en actions, ce qui en fait un produit très intéressant pour l'investissement patrimonial.
D'accord. Quand on parle d'obligation, c'est vrai qu'il y a cette notion de coupon, de rendement. Du fait que l'obligation soit convertible, du coup, on a un peu moins de rendement.
Oui, effectivement. Et donc il faut payer cette possibilité de pouvoir convertir en actions. Et vous avez un petit peu moins de rendement que sur les obligations classiques. Mais on est de l'ordre de 1 à 2 % de moins, en fait.
D'accord. On va explorer justement des différents scénarios en regardant ce qui s'est passé, par exemple, l'an dernier. L'an dernier, crise quand même, avec la crise, les bourses ont plongé. Si on a des obligations convertibles, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit la décote des actions, même si elles ont bien repris dessus. Ça veut dire que dans ce moment là, je ne perds pas d'argent, je garde mes obligations et j'attends finalement que peut-être il y a retour à meilleure fortune.
Exactement. En fait, on a regardé la période la pire sur les marchés entre le 19 février et le 31 mars 2020. Donc là, vous aviez les indices actions qui perdaient 27%. Nous, sur le fonds d'obligations convertibles Monde, on perdait que 10%. Alors que les indices convertibles perdaient, eux, 16%. Mmh. Et quand vous regardez la volatilité, donc c'est le risque, on avait seulement 9% de vol sur cette période contre 26% sur les actions. Donc là, vous voyez vraiment, vous aviez une meilleure protection à la baisse. Et on a refait surtout toute la remontée, puisqu'on a fini l'année à plus 14%. Ouais. Donc on voit tout le potentiel d'être investi sur les actions à travers l'optionnalité.
En fait, savoir quand il faut acheter et vendre le marché action, c'est très compliqué. Si je savais faire, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, avoir des obligations convertibles, vous achetez quelque part le droit, enfin, un outil qui vous permet de le faire quasiment automatiquement. Donc, si vous êtes cardiaque, c'est mieux pour vos investissements et vous passerez des nuits plus calmes aussi, je pense.
Voilà, c'est cette notion de volatilité. C'est ça qu'on abaisse et du coup, on lisse un petit peu la vision.
Oui, dans la théorie, en fait, vous avez le meilleur des deux mondes. Mais dans la pratique, c'est encore mieux. Parce que quand on compare sur des performances long terme, supérieures à 10 ans, là, vous voyez que vous avez des performances sur les obligations convertibles qui sont similaires aux actions, pour seulement un tiers de la volatilité. Donc c'est vraiment un produit miracle, si je puis dire, et qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors justement, on va demander à Philippe Anson, qui peut-être a, au cours de sa carrière, et maintenant peut-être conseille encore des obligations convertibles. Philippe Anson, j'ai l'impression que c'est un placement, c'est vrai, dont on parle peu. On parle beaucoup d'autres choses. On parle d'actions, on parle beaucoup de trackers en ce moment, on parle même de crypto-monnaie, là on est sur un autre champ. Les obligations convertibles, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous-même, vous en avez conseillé à vos clients ?
Ah oui, absolument, depuis longtemps. Effectivement, c'est un produit idéal en fonds de portefeuille, notamment un portefeuille équilibré, compte tenu de la volatilité, voire même en prudent, puisqu'on voit que c'est un produit qui a avec de la performance, malgré un petit peu de volatilité. On est en fonds de portefeuille, absolument, et depuis de nombreuses années, j'en mets un petit peu, oui.
Absolument. D'accord. Fonds de portefeuille, ça veut dire quoi ? C'est par exemple...
Bon, 5 à 10 %, quoi, voilà, en fonction du risque.
Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. On a fait une étude, en fait. On a regardé, par rapport à un portefeuille action et un portefeuille obligataire, si on rajoutait des obligations convertibles, ça, pour un même niveau de risque, en fait, ça augmentait le rendement. Donc on voit que c'est un produit vertueux. Et on a regardé quel était le pourcentage optimal, en fait, en risque... en termes de Sharpe ratio. Et c'est vrai que pour une dizaine de pourcents dans un portefeuille, ça a tout son sens. Et on retrouve souvent ce pourcentage chez des institutionnels, chez des gérants privés ou des gérants de patrimoine.
D'accord. Qui peut utiliser justement ce type d'outil ? C'est ouvert à tous, tous les portefeuilles, voilà, dès qu'on a un peu de patrimoine ? On parlait justement de 5 à 10%. On a dit peu risqué, moins volatile. Du coup, c'est ouvert à tous ?
C'est un produit qui est parfaitement adapté à toutes sortes de profils, donc du défensif à l'équilibré. Et je dirais même, enfin, vu le fait qu'on ait des performances qui sont parfaitement comparables au marché à actions, voire même supérieures en Europe. Hein, en Europe, depuis les années 2000, en fait, les convertibles surperforment les marchés à actions. C'est un outil qui le rend accessible à tout le monde via les fonds de placement. Mmh. Hein, donc il ne faut pas acheter ça vous-même et construire votre propre portefeuille. On laisse ça à des spécialistes, je pense. Ouais. Mais il y a nos fonds sont disponibles partout. Et donc, ça rentre dans tous les portefeuilles.
Vous m'avez dit, c'est également un bon baromètre, finalement, de ce qui se passe en économie, puisque les obligations, c'est quand même le sous-jacent, c'est quoi ? C'est des sociétés qui émettent donc de la dette. Et on peut émettre de la dette quand plutôt ça va bien. Vous m'avez dit, c'est vrai que c'est le dernier marché qui a fermé lors de la crise il y a quelques mois et le premier qui a réouvert. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Quand vous dites dernier marché qui ferme, ça veut dire que c'est par rapport à nous ce qui s'est passé. On sait qu'on a eu beaucoup de mesures de soutien en Europe. On a eu en France, par exemple, le prêt garanti par l'État. Si on va du côté des pays anglo-saxons, États-Unis notamment, ils n'ont pas eu toutes ces mesures. Eux, ils sont vraiment en direct sur les marchés.
Non, effectivement, vous avez tout à fait raison. On observe que les marchés convertibles, et c'est pour ça qu'ils sont particulièrement intéressants, en fait, c'est en général les derniers à fermer quand tout va bien, mais c'est aussi les premiers à rouvrir quand les choses sont un peu plus compliquées. Donc effectivement, comme vous le dites, en Europe, nous avons connu le prêt garanti par l'État. Sur le marché américain, ces prêts n'ont pas existé. Et les sociétés, donc les banques, ont été frileuses pour prêter de l'argent à des sociétés qui n'étaient pas au top de leur forme, disons. Mais le marché de convertibles, lui, il est bien resté ouvert, là où le marché du high yield était un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué déjà.
Le haut rendement, en bon français.
Voilà, pardon, le haut rendement. Et ce qui en fait qu'en fait, pour pouvoir se refinancer, donc ces sociétés qui ont besoin d'argent, ils sont quelque part obligés de proposer des termes très attractifs à l'investisseur. Et ça nous donne donc des opportunités une palette d'opportunités très élargie pour pouvoir investir sur ce marché.
Et c'est une année record en termes d'émissions. Sur le premier trimestre, on a eu plus de 45 milliards de dollars d'émissions aux États-Unis. On a eu une dizaine de milliards en Europe et à peu près 22 milliards en Asie.
Étonnant, donc, pourtant, pour une année, effectivement, de crise, ou enfin, de soutien à l'économie. Alors, je vous propose, messieurs, de faire une première pause après avoir posé, justement, ce que c'était que ce produit, ces obligations convertibles. On va se retrouver juste après pour évaluer, justement, à quel moment on peut en faire, quels sont les risques, les avantages et les inconvénients. C'est avec nos invités de Dynasty AM et Philippe Wanson. On se retrouve dans quelques minutes. Bruce Springsteen sur Radio Patrimoine, Born in the USA.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Et on aborde ce matin dans l'Hebdo Patrimoine un sujet un petit peu plus technique. On parle d'obligations convertibles avec nos invités Chris de Blander, gérant de Dynasty AM, Laurent Pluchard, directeur général de Dynasty AM, et Philippe Wanson, consultant en gestion de patrimoine. Messieurs, on vient d'expliciter un petit peu les contours de ce produit qui n'est pas nouveau. Comment il a pris de l'ampleur au cours de cette année avec des émissions records. Justement, Laurent, si on regarde un petit peu les perspectives, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est-à-dire que là, l'économie est de nouveau en train de s'ouvrir. On a vu des dizaines, des centaines, des milliers de milliards déversés dans l'économie par les différentes banques centrales. Quelles sont les perspectives sur ce produit?
Les perspectives sont bonnes sur les obligations convertibles parce que, comme je vous le disais, il y a eu énormément de primaires, ce qui a amené une diversification en termes de pays et de secteurs. Et ce primaire, il y a eu une petite indigestion du marché. Du fait, le marché est devenu moins cher de 2-3%. Donc on pense que c'est vraiment le moment pour investir. Surtout quand on voit la volatilité actuelle sur les marchés. C'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission. En fait, vous avez un tiers de la volatilité des marchés actions. Donc ce produit vous permet d'être exposé sur les actions pour seulement un tiers de la volatilité. Donc c'est toujours très dur d'attraper le plus bas de marché. Mais ça permet d'être investi... sur les actions.
Voilà, avec cette prime et cette possibilité de conversion en actions. Une question pour notre spécialiste, Chris de Blander, donc gérant. Comment vous faites votre choix aujourd'hui, puisque, comme on le disait à l'instant, le marché, il a bien rebondi. Certains disent qu'il est cher, certains disent même qu'il est en surchauffe. Certains évoquent une bulle, notamment sur les valeurs techno les plus prisées. Comment vous faites, justement, pour désigner les sous-jacents et choisir du coup, vos obligations convertibles?
Ce qui est absolument génial aujourd'hui sur le marché de convertibles, c'est que c'est les émissions qu'on a eues récemment et dans les 12 derniers mois. Donc ça vous permet, si vous êtes gérant actif que nous sommes, de choisir vraiment sur quelle valeur nous souhaitons nous exposer à travers ce marché. Vous avez absolument tout à votre disposition. Mmh. Vous avez des convertibles LVMH, vous avez des convertibles Kering, vous avez des convertibles Spotify, vous avez des convertibles Microsoft. Vous pouvez acheter des plus petites valeurs si vous le souhaitez. Donc c'est absolument fabuleux. Ouais. C'est une classe d'actifs qui D'accord. vous permet vraiment de, avec ce moindre risque, d'exprimer votre vue de gestion.
Alors, juste un petit aparté, ça veut dire que ce sont ces sociétés que vous avez citées, par exemple, les plus grandes, on l'a compris, comme les plus petites, qui émettent, ou ce sont des constructions des produits? Est-ce que ce sont les sociétés elles-mêmes qui émettent ces convertibles?
Non. Aujourd'hui, la beauté sur ce marché, et ça crée aussi l'opportunité qu'on a aujourd'hui sur la classe d'actifs, c'est que c'est ces sociétés qui émettent des convertibles. Donc, en fait, l'émission de convertibles a un intérêt pour tout type de société pendant son cycle de vie. Ce ne sont pas seulement, comme on entend souvent, des sociétés qui sont un peu plus risquées ou qui ont des problèmes qui émettent des convertibles. On voit vraiment des très belles valeurs, des grandes capitalisations qui émettent ce genre d'obligations.
Leur intérêt, c'est d'avoir plus de financement, de pouvoir développer des projets, faire des acquisitions.
C'est souvent, c'est ça. Bon, vous avez tout compris. Hein, c'est intéressant que quand je crée un projet dans une société, de le financer à travers une convertible, parce qu'en fait, pour le CFO, si mon projet il fonctionne, en fait, je vais devoir amener des actions, mais à un cours plus élevé. Donc, je vais être content. Et si ça ne fonctionne pas, j'aurai émis de la dette, mais j'aurai payé un peu moins de coupons.
Mais vous avez raison, Fabrice. En fait, nous, on ne fait pas du tout de convertibles synthétiques. Là, ce n'est pas du tout les corporates qui émettent, mais ce sont des banques. C'est un produit structuré. C'est juste pour arbitrer le marché et trouver un mode de financement le moins cher. Donc, ce n'est pas un vrai besoin d'argent de la société pour investir. Et ça, on n'en fait pas du tout chez Dynasty.
Alors, qu'est-ce...
Oui.
Non, je veux dire, qu'est-ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on ne fait pas de gestion indicielle. Et ça, c'est important, puisque dans les indices convertibles, aujourd'hui, vous avez quand même un biais, d'abord, sur les États-Unis. Il y a à peu près 60 à 65% de ce marché qui est situé là-bas. Mm-hmm. C'est plutôt une bonne chose, et c'est logique, d'ailleurs. Mais vous avez un biais sur la technologie. On peut effectivement, comme vous l'avez fait, se poser des questions sur la valorisation de certaines de ces sociétés. Et il faut savoir que nous, chez Dynasty, en fait, on a de la technologie, mais on n'en a pas 60% dans les portefeuilles. C'est plutôt un thème chez nous qui est développé à hauteur de 15% dans les portefeuilles.
D'accord. Il y a un filtre que les sociétés utilisent de plus en plus, c'est le filtre ESG. On le met un petit peu à toutes les sauces en ce moment. Comment vous utilisez, vous, justement, on peut parler de nouvelles normes, donc c'est en tout cas ce point d'attention environnement social et de gouvernance pour faire aussi votre sélection.
Alors, quand on fait notre sélection, on a une approche bottom-up, c'est-à-dire on regarde vraiment les fondamentaux de la société, c'est notre premier critère. Et c'est vrai que l'ESG est au cœur des analyses, de nos analyses financières afin d'apporter une valeur durable au portefeuille. Donc on prend en compte les aspects ESG et surtout l'aspect G de gouvernance. Mmh. Parce que sur les obligations, votre plus gros risque, c'est d'avoir une faillite. Et souvent, ça vient d'un problème de gouvernance. Donc on a quelques exemples qu'on a évités, hein, Chris,
en portefeuille. Oui, non, mais effectivement, Laurent a tout à fait raison. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la gestion et j'ai toujours dit qu'une bonne gestion financière avec une prise de position dans une société, après, ça doit forcément tenir compte de tous les éléments. Donc ça tient compte d'éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est dans ce contexte-là, en fait, nous, on n'avait pas de Wirecard en portefeuille, la fameuse société allemande qui a fait, qui a fait faillite sur des éléments de fraude comptable l'année passée.
Alors pourquoi ce n'était pas forcément sur les critères financiers? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Pourquoi elle n'était pas dans le spectre? Parce que, attention, on rappelle, avant, Yann Wirecard, c'était la nouvelle star. Elle était à l'équivalent du CAC 40, le DAX 30, du coup, dans les 30 plus grosses valeurs, elle est plus suivie. Et pourtant, il y a eu un méga scandale l'an dernier.
Les problèmes de gouvernance et de comptabilité dans cette société étaient assez rapidement spotés par des journalistes, en fait, étaient publiés. Moi, ça a toujours été quelque part un red flag dans l'investissement quand on fait de l'obligataire. En général, les plus grosses corrections, les plus grosses punitions sur des valeurs, vous pouvez les avoir, et même des faillites, vous pouvez les avoir sur des problèmes de gouvernance de la société. Donc ça, c'est quelque chose auquel, dans ma carrière, avec mon expérience, j'ai toujours fait extrêmement attention, en fait.
D'accord. Le red flag, c'est le drapeau rouge qui vous alerte. Chris nous a précisé que le français est sa troisième langue. Donc forcément, il fait des petits raccourcis, mais c'est tout à fait normal. Par exemple, ce que vous aviez détecté dans le sujet Wirecard, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres scandales et d'autres faillites, c'était que c'était shorté par certains hedge funds américains. Et puis aussi, vous faites attention à tout ce qui est rémunération des dirigeants. C'est des choses, c'est des détails qui peuvent attirer votre attention.
Il y a effectivement, on regarde quelques indicateurs qui sont plutôt originaux. Effectivement, donc on regarde le volume de short qui peut y avoir sur les valeurs. Donc des ventes à découvert, des gens qui vendent la valeur sans forcément l'avoir. Pour regarder si elle pourrait baisser de façon significative ou pas, c'est effectivement un indicateur. La rémunération des dirigeants, mais aussi la structure de la société, si on passe par des holdings compliqués, si on passe par des sociétés mères dans des domiciliations un peu spécifiques. Donc tout ça est systématiquement regardé et analysé de façon très proche chez Dynasty.
Et on fait appel à de la recherche indépendante parce que nous sommes 15 personnes, dont 5 gérants. Et en particulier sur l'ESG, on est en partenariat avec la société Vigeo Iris qui fait un excellent travail dessus.
Voilà, vous vous appuyez sur les données de Vigeo Iris depuis bientôt 3 ans. En tout cas, c'est ce que dit votre site. Ça permet effectivement de peut-être détecter certaines choses et puis éliminer aussi peut-être les mauvais... on ne sait pas s'ils sont mauvais, mais en tout cas ceux qui ne rentrent pas dans la charte. Et c'est vrai que les actionnaires, les épargnants et même les investisseurs institutionnels sont de plus en plus soucieux de ces normes ESG. Philippe Ponsan, je me tourne vers vous parce que c'est vrai qu'on a l'impression là aussi sur ces normes que c'était quelque chose d'un peu gadget. Il y a quelques années, on saupoudrait comme ça. Et on voit que de plus en plus, il y a une véritable conviction qui se met en place. La finance, maintenant, se veut très responsable et veut appuyer des projets qui sont dans ces fameux critères.
Non, tout à fait. Dans toutes nos sélections, maintenant, on fait attention à ces critères ISR, ESG, de manière à répondre aussi à la demande de plus en plus de clients qui veulent des produits propres. Donc, effectivement, ça... ce sont des critères qu'on regarde maintenant systématiquement.
Mais est-ce que vous avez l'impression que ça s'accélère depuis un certain
sûr,
temps,
évidemment.
Et peut-être même avec la crise qu'on
vient de connaître ? Non, évidemment. Déjà, toutes les sociétés de gestion se mettent à créer des produits ISR et ESG. Donc oui, bien sûr, les sociétés de gestion communiquent beaucoup dessus. Et nous, par le biais de nos clients également... On est obligé de s'y intéresser de plus en plus. Et effectivement, c'est un des critères qu'on regarde maintenant, oui.
D'accord. Les sociétés, évidemment aussi, se mettent à la page. Il faut aussi qu'elles montrent patte blanche quelque part, qu'elles aient de la traçabilité sur ce qu'elles font, sur leurs pratiques, effectivement, que ce soit environnementale, sociale et de gouvernance. Réunion d'actionnaires aussi de plus en plus houleuse. Et puis certains, vous êtes vigilant aussi, Chris de Blander, sur certaines sociétés qui pourraient en abuser ou faire du greenwashing, ou du moins... se montrer, c'est de se montrer peut-être plus en phase avec ces critères que d'autres. Est-ce que vous avez est-ce que c'est quelque chose justement que vous prenez en compte ?
Je ne suis pas un grand fan de ce mot, mais oui, effectivement, il a certainement un sens. Donc, on intègre de façon pragmatique de l'ESG dans nos analyses parce que comme on en a parlé juste avant, c'est quelque chose qui pour nous est absolument indispensable. Quand on veut faire une gestion, et ce sont des critères qui doivent absolument être pris en compte. Après, il faut éviter le côté... On essaie d'éviter le côté trop marketing, parfois, des émissions, parce qu'ils sont tout simplement vertes. On a connu un exemple sur le marché américain il y a un mois à peu près, société Enphase qui a mis une obligation convertible qui était un green bond. Et on a observé que puisque ce bond était green, en fait, il est sorti avec une prime sur des autres émissions comparables.
D'accord.
Avec des éléments financiers de la société comparables. Ouais. Et ça, on a refusé de payer cette prime. Je ne dis pas que la société n'est pas intéressante, mais le prix où ils ont sorti cette émission, parce qu'elle était green, pour nous, c'était injustifié. C'est... Et aujourd'hui, on observe en fait qu'effectivement, toute autre chose étant restant égale par ailleurs, cette obligation a corrigé de façon assez violente.
D'accord, ça fait penser un petit peu, ça parlera aux plus anciens, aux sociétés en .com des années 2000, où il suffit de rajouter .com et tout à coup, elle était valorisée de manière exponentielle. Vigilance sur ces points. Écoutez, on connaît déjà un petit peu plus votre grille aussi de lecture de ces obligations, un marché, donc on l'a vu, hein, extrêmement profond, qui s'agrandit et qui même s'est multiplié avec la crise. On a une question quand même sur, justement, ces masses de liquidités qui arrivent en ce moment sur les marchés, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent à un moment? C'est-à-dire qu'on a l'impression, et on le voit sur les taux, que c'est de plus en plus bas. Ça veut dire que pour vous, les gérants, c'est aussi compliqué de faire de la performance.
Tout à fait, mais c'est pour ça qu'on continue à penser. L'accroissement de la masse monétaire, les plans de relance et les actions des banques centrales, ils en font quand même... l'idée derrière tout ça, c'est d'éviter que les choses se passent mal, que l'économie tourne mal, c'est d'éviter des faillites, et c'est d'éviter chômage, en fait. Hein, donc c'est d'éviter un ralentissement significatif de l'économie. Donc, pour cela, les banques centrales, ils achètent des obligations. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les rendements sur l'obligataire classique est très bas, en fait. Alors, nous avons... c'est pour ça que nous avons une philosophie d'acheter des actifs à spread et d'aller chercher de la valeur. C'est pour ça que nous avons une philosophie de ne pas regarder ce qu'il y a dans les benchmarks, puisqu'on pense effectivement... Ou dans les indices de référence, puisqu'on pense effectivement que ça peut être très cher. Et on refuse de surpayer. On va aller acheter des actifs où il reste du rendement et où on pense qu'on va être bien rémunéré pour le risque que nous prenons.
Nos portefeuilles sont assez concentrés. On a entre 50 et 70 valeurs en portefeuille. Et on a des turnovers. Donc on tourne le portefeuille très très peu, moins de 0,5 fois par an. Donc on garde nos idées très longtemps. On a eu des obligations convertibles qui ont été émises à 100% qui, quelques années après, valaient 800% du nominal. Donc vous pouvez toujours faire de l'argent. On a des thématiques porteuses aujourd'hui. On croit énormément dans le luxe, dans l'immobilier. Donc on peut toujours trouver des idées.
Bon, très bien. Donc vous avez surfé sur la reprise des secteurs. Hein.
Pour vous donner un exemple, par exemple, 50 milliards d'obligations convertibles ont été émises depuis le début de l'année sur le marché américain à travers 70 émissions. On en a sélectionné 7 de ces 70. Donc ça témoigne d'une très grande sélectivité. On a plutôt choisi des dossiers mid-cap américains. Alors quand je dis mid-cap américain, ce ne sont pas des sociétés qui capitalisent 500 millions d'euros. Hein, on est plutôt dans les 15 milliards qui ont des projets concrets, qui ont des cash flows et qui vont déployer cet argent. Okay, donc 90% de ce qui a été mis est resté sur le côté chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais, en fait. Qu'on ne va jamais les acheter, mais pas tous achètent à l'émission. Et donc tout ça, ça vient peupler l'univers de convertibles. Et ce sera probablement très intéressant à un certain moment. Mais pas aujourd'hui.
Alors par exemple, on lit dans votre newsletter que vous avez laissé tomber. Donc, vous avez laissé de côté Enphase 0% 2026. Airbnb, 0% 2026 également, Dropbox, donc des belles sociétés qu'on connaît, des multilicornes d'ailleurs. Vous avez préféré financer par exemple Shake Shack, restaurant fast-food haut de gamme aux États-Unis. Là, c'était une obligation, donc 225 millions convertibles, 2028 à 45% de prime. Qu'est-ce que ça veut dire là, justement, quand on voit 45% de prime?
Mais ça veut dire que l'action doit monter des 45% avant qu'on pouvait, à échéance, ou pendant la durée de vie de la convertible, convertir dans l'action de Shake Shack, qui nous semblait un target absolument un objectif très réalisable sur, sur la durée de ce projet. Ça ne veut pas dire que l'obligation ne montera pas entre-temps. Donc ça va effectivement varier avec la hausse de l'action ou pendant la vie de la convertible.
Ça veut dire que si en 2028, on est arrivé à 45 ou plus de primes, à ce moment-là, bah, je ne sais pas, que l'action a grimpé de 50%, vous pouvez la convertir. Imaginez qu'elle est à 100 euros, donc si elle atteint 200, vous pourrez l'avoir à 145.
Tout à fait.
D'accord. Ok, on comprend bien l'effet de levier que ça apporte, même si le coupon n'est pas excellent en attendant. C'est vraiment un pari sur l'avenir. Et puis aussi, laisser aussi ses liquidités à un moment où c'est payant hein, d'avoir des liquidités, ça coûte cher. Ouais. Si on le laisse à la banque, bah, je crois qu'on est, ponctionné.
Exactement.
Du coup, là, ça peut permettre d'avoir un placement à zéro. Et comme disait un économiste célèbre, bah, zéro, c'est mieux que moins, que moins 1 ou moins 2.
Mais les taux sont bas, enfin les coupons sont bas sur ces convertibles, mais il faut pas, je pense qu'il ne faut pas se focaliser trop là-dessus. Hein. On vit quand même dans un monde où, en début d'année, 18 milliards de dettes traitées à des rendements négatifs, ce qui est un nouveau concept dans la dette financière. On a essayé de faire l'historique de ce chart, et en fait, il n'y a pas de, on trouve pas de données avant 5 ans. C'est un concept qui a commencé il y a 5 ans. La dette qui traite à taux négatif, aujourd'hui, on est à 18 milliards.
Donc, 18 000 milliards.
Voilà.
Incroyable.
Tout à fait.
On parlait des fonds prudents, fonds patrimoniaux.
Alors, on va l'arriver dans un instant. Juste, on finit sur, pour donner justement des idées. Par contre, c'est un marché donc, qui vit, hein, qui vit sa vie aussi. Ces obligations sont cotées en continu. Et vous êtes rentré, vous avez tiré profit de la correction pour rentrer sur Halozyme Therapeutics, que je ne connais pas, je passais une... de la biotech, donc à 68% de prime, et là on a du rendement 1,80%, ou alors ce qui va peut-être parler un petit peu plus, Spotify 2026 qui corrigeait 1,5% de rendement, 85% de prime. Là aussi ce sont des dossiers, du coup vous étudiez quand même évidemment le sous-jacent et vous dites là il y a quelque chose à faire, ou il y a un prix qui devient intéressant.
Nous pensons que Spotify, en fait, ils ont un business model qui est assez... qui est assez facile à comprendre, et y a pas forcément un consensus là-dessus dans le marché, mais nous on pense effectivement que ces gens ils ont un pricing power, donc c'est un peu le Netflix de streaming en audio. Apple a essayé de les attaquer, de leur gratter des parts de marché, ça ne fonctionne pas vraiment. Personnellement j'ai pas de compte, mais tout le monde qui fait du streaming en musique me dit qu'il faut avoir du Spotify. Et rien d'autre, en fait.
Ouais, et en plus, c'est européen, pour une fois.
Oui, c'est suédois. C'est suédois. C'est coté sur le Nasdaq, mais c'est suédois.
Exactement. Alors, messieurs, on va faire une nouvelle pause. On se retrouve juste après, justement. On parlera du concret, si les obligations converties vous intéressent. Comment on fait pour entrer sur ce marché? Comment on fait, peut-être via des fonds, et lesquels choisir? On voit ça avec nos invités, l'Hebdo Patrimoine, obligations convertibles. Ça continue dans quelques minutes.
Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie Des sirènes me replonge en hiver, oh mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Frérot de la Vega, le chant des sirènes dans l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Avec un numéro spécial obligations convertibles, qu'est-ce que c'est, comment bien les utiliser? On voit ça avec les spécialistes de Dynastiem et Philippe Anson, consultant en gestion de patrimoine. Philippe Anson, on a vu que c'était un outil qu'on pouvait utiliser. Alors, on a dit peut-être 5% de son portefeuille, suivant la sensibilité. On a vu que ça, c'était beaucoup plus, moins volatile que les actions, même si bon, la volatilité s'écrase, puisqu'en ce moment, on a une hausse quasi continue, mais qui peut être inquiétante. Est-ce que vous avez des clients ou du moins certains bruits comme quoi certains commencent à s'inquiéter du niveau atteint par les marchés, notamment sur ces marchés actions?
Oui, absolument. Ben, on a vu notamment les performances des marchés américains et surtout les valeurs tech qui atteignent des niveaux stratosphériques. Donc effectivement, il y a besoin d'un peu plus de prudence en ce moment. Et c'est vrai que les convertibles sont un bon moyen de se protéger contre cette baisse, tout en ayant un peu de performance si les marchés continuent à bien évoluer.
Beaucoup de valeurs techno, beaucoup de valeurs du luxe également, vous avez parlé. C'est vrai que là aussi, les Hermès, les Kering, les LVMH surfent sur cette vague de la reprise, on l'espère, et bien évidemment. Pour autant, Laurent, est-ce que vous pensez qu'à un moment, il pourrait y avoir une correction et du coup des opportunités aussi pour pouvoir rentrer sur ces marchés?
Oui, il pourrait y avoir une correction, bien sûr. Malheureusement, je ne suis pas devin.
Vous avez oublié la boule de cristal dans nos studios, dommage.
Bien évidemment, mais justement, c'est l'intérêt de la classe d'actifs. C'est qu'on a cette partie obligataire qui peut nous protéger en cas de baisse et cette partie action où on bénéficie de la hausse. Après, c'est un peu comme un fonds. Les convertibles peuvent être une alternative à un fonds prudent ou à des fonds patrimoniaux, parce que nous, on a décidé chez Dynasty de limiter notre sensibilité action, de la modérer. Donc dans notre fonds Dynasty Global Convertible Monde, on l'a capé, on l'a limité à 40%. Aujourd'hui, on est sur cette limite-là. Et dans notre fonds Europe, on l'a limité à 50%, on est à 45% aujourd'hui.
D'accord.
Donc vous voyez, vous avez un profil mixte et on n'est pas sur des sensibilisations de 100% de delta.
Alors justement, vous avez évoqué certains fonds. Si on ne connaît pas encore cette classe d'actifs, par contre, on commence, est-ce qu'il y a justement des produits qui sont plus ou moins risqués, comme vous venez de le décrire? Est-ce qu'on peut panacher aussi sur différents fonds, son investissement?
Oui, pour souscrire, c'est très simple. Vous allez voir votre banque, vous leur demandez, ou votre conseiller en gestion de patrimoine, avec un code ISIN. Lui a sûrement quelques éléments de comparaison à vous apporter. Et vous pouvez panacher en fonction de votre sensibilité, si vous préférez être sur un fonds monde, sur un fonds Europe, en fonction de votre sensibilité action aussi. Vous avez des fonds convertibles avec des sensibilités très basses, d'autres très très fortes, là nous où on ne va pas. Donc c'est en fonction justement de votre profil de risque et d'investisseur, vous pouvez panacher vos investissements.
Les investissements sont libellés en euros, en dollars, parce qu'on a parlé beaucoup de valeurs américaines également.
Alors ils sont libellés dans différentes devises. Mais on a décidé de couvrir tous les risques de change. D'accord. Donc on a des parts libellées en euros, libellées en dollars, mais vous n'avez aucun risque de change dans nos fonds.
Très bien. Donc on l'a compris, Philippe Vincent, on peut démarrer, en tout cas, on peut diversifier son portefeuille, désensibiliser aussi peut-être à un risque action important aujourd'hui, après une sacrée hausse, et puis ça a continué sur ce premier trimestre.
Oui, tout à fait. Non, et puis je pense que c'est une classe d'actifs qui est très intéressante par rapport aux déconvenues qu'on a eues sur beaucoup de fonds prudents. Et là, quand on regarde les performances, ne serait-ce que de Dynasty sur 5 ans, elles sont vraiment excellentes. Et c'est une réelle. Franchement, réellement, une classe d'actifs à regarder aujourd'hui, en alternative aux fonds prudents, décevants, voire fonds patrimoniaux. Compte tenu de la volatilité, il faut absolument regarder cette classe d'actifs.
Alors, sur Hebdo Patrimoine, évidemment, on creuse et on va voir exactement. Quand vous dites les performances sont excellentes, on est sur quel le niveau, alors on prévient évidemment, on va mettre la mention, les performances passées ne présument pas des performances futures bien évidemment, mais voilà, on est sur quel à peu près niveau de rendement?
On est sur des niveaux de rendement entre 5 et 6% par an.
Ah d'accord.
Vous ne deviendrez pas riche avec nous, mais cet argent est quand même assez bien protégé.
Je ne sais pas si les gens veulent être riches, on veut déjà protéger son patrimoine.
Exactement.
Et qu'il grossisse tranquillement 5-6% par rapport au taux actuel, et on le disait, par rapport aux alternatives de placement sans risque, où là on est quasi certes. Avec l'inflation, même s'il y en a peu, de perdre de l'argent, 5-6%, ça va faire dresser l'oreille à certains.
Oui, non, mais les clients acceptent de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, mais n'acceptent pas d'en perdre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être assez prudent dans ses allocations et essayer de limiter son risque. D'ailleurs, dans les questionnaires de risque que l'on a, on demande aux clients leur niveau maximum toléré, et on s'aperçoit quand ils nous répondent que, bon, au-delà de 10%, il y a très peu de gens qui disent « j'accepte de perdre 10%. Mmh. » Mais 10%, si on est un peu trop exposé à actions, ça peut descendre beaucoup, beaucoup plus bas.
D'accord. Risque, finalement, si on parle des risques également, c'est quoi? C'est l'accident de marché. Mais du coup, quand on voit les maturités, c'est-à-dire les échéances, dont on parlait des obligations 2025, 2026, 2028, il faudrait vraiment qu'on ait un krach de marché qui dure des années. Crise demandeur.
Oui, tout à fait. Et quoi qu'il en soit, les convertibles, ils ont une tendance à bien amortir les baisses de marché, les chocs de marché, la volatilité du marché. Mmh. On n'a pas encore parlé du risque de taux éventuel qui est, parce que bon, partout on lit, nous on n'y croit pas trop dans l'immédiat, mais partout on lit inflation, injection monétaire, retour de l'inflation. Aux taux. Et là aussi, on tombe sur une particularité qui est très, très intéressante pour les convertibles. C'est qu'ils sont très, très peu sensibles à la hausse de taux. Déjà, ils le sont de nature, puisque comme c'est des obligations qui sont convertibles en actions, vous avez une duration, un risque de taux qui est moins que la moitié que vous aurez avec des obligations classiques.
D'accord.
Mais en plus, ce qui dirige le résultat des convertibles, on observe en fait que c'est corrélé quasiment à 100% au marché actions. Ça veut dire qu'il y a une probabilité très élevée qu'ils vont partir dans le même sens que le marché actions. Et donc là, vous avez une classe active qui est déjà moins sensible au risque de taux et qui sera dirigée par les marchés actions. Donc en fait, vous évitez un peu tous les écueils de la gestion classique obligataire avec les convertibles.
Oui. Chris a tout à fait raison. On est sur des maturités moyennes en portefeuille entre 3 et 4 ans. Et la sensibilité taux est seulement de 1 an. Mmh. Vous voyez, donc elle est très faible.
D'accord. Pourquoi vous ne croyez pas justement à une reprise de l'inflation quand on voit les milliards qui sont déversés? Certains déjà parlent d'une reprise extrêmement rapide des États-Unis et même une surchauffe avec un marché de l'emploi qui retourne à son plus haut.
Et puis une hausse des matières premières.
Hausse des matières premières, le pétrole, voilà, qui était dans le creux, dans le creux de la vague, mais qui repart très très fort. Tout ça fait craindre effectivement des reprises d'inflation et peut-être des banques centrales qui à un moment vont serrer la vis. C'est pas le cas en ce moment. Vous y croyez pas? Pour quelle raison?
Si, non, mais vous avez tout à fait raison. Enfin, les injections monétaires vont bien finir par faire monter les prix. Maintenant, est-ce que c'est un risque que nous croyons immédiat pour cela? Il faut d'abord que l'économie, vous l'avez dit vous-même. Il faut qu'elle surchauffe. Pour qu'elle surchauffe, il faut qu'elle parte quand même en plein emploi, qu'il y ait de la croissance très importante. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore un peu loin de tout ça. Mmh. Mais ce qui est plus important, et ce que nous faisons dans les portefeuilles, en fait, on s'expose sur des valeurs, sur des secteurs où on pense que cette inflation a déjà eu lieu. On va investir sur des matières premières, sur des obligations convertibles liées à des matières premières, donc ça veut dire des mineurs d'or, ça veut dire du cuivre. On va s'exposer au secteur du luxe pour investir sur le thème de la reprise chinoise, par exemple. Donc là, en fait, le thème inflation, quelque part, aussi sur l'immobilier, le thème inflation, quelque part, il est déjà incorporé dans nos portefeuilles, mais... Il est déjà implémenté, en fait.
D'accord. Et même, oui, on peut en bénéficier. Mais c'est vrai que l'inflation, on ne la voit pas encore. Il faudrait que ça gagne les salaires. Et là, on les voit pas. C'est plutôt sur les bourses, sur les marchés des actifs, hein, justement, que ce soit la bourse mobilier ou immobilier. Laurent Pluchart, bon, il nous reste une minute pour synthétiser, finalement. On a compris, classe d'actifs hyper intéressante, plutôt stable, plutôt... plutôt, voilà, plutôt résiliente et moins volatile que les actions. On recite le nom des fonds pour ceux qui souhaitent effectivement aller en parler directement à leur conseiller en gestion de patrimoine.
Donc notre fonds monde convertible s'appelle Dynasty Global Convertible et notre fonds convertible Europe s'appelle Kilves Convertible Europe.
Kilves Convertible Europe, et là on est plus sur des valeurs européennes ou pas forcément?
Oui, on est plus sur des valeurs européennes, tout à fait, mais comme disait Chris, on joue typiquement à travers le luxe, la reprise en Asie, donc on bénéficie de l'économie mondiale.
Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette classe d'actifs, peut-être jusqu'ici le méconnu, là, on est content d'avoir fait ce point sur ce sujet. Merci à nos experts, Chris de Blander, gérant Dynasty AM, Laurent Puchard, directeur général de Dynasty AM également, Philippe Bonson, consultant en gestion de patrimoine. Merci également à Sophie Bernard qui a préparé cette émission à Théo Benoît Hambourg qui l'a réalisé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Très bonne semaine à tous.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.